Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
RTL 7h47, Jérôme Chapuis, votre invité ce matin, est député européen et vice-président du Front National.
Bonjour Florian Philippot.
Bonjour.
Vous étiez hier parmi les personnalités présentes à Notre-Dame de Paris pour l'hommage au père Jacques Hamel. Comment est-ce que vous interprétez ces applaudissements qui ont accompagné François Hollande et le cardinal 23 à la fin de la célébration ?
Oui, quelques applaudissements. J'y étais. Je peux vous assurer que tout le monde n'était pas non plus debout à applaudir François Hollande. En tout cas, je n'en étais pas. Je n'ai pas fait partie des gens qui ont applaudi François Hollande. Je pense que c'était une messe, évidemment, de recueillement et d'hommage à la victime, au père Hamel. J'estime personnellement que François Hollande mérite tout sauf des applaudissements.
Mais est-ce que vous avez ressenti ce que beaucoup de gens nous ont dit au micro de RTL à la sortie, qu'il y avait cette volonté d'être unis par-delà les clivages hier, au moins le temps d'une cérémonie?
Oui, bien sûr, c'est l'objectif de ces cérémonies et aussi, puisque c'est l'hommage de la nation tout entière. Donc évidemment, nous sommes unis dans ce genre de cérémonie. Je crois que l'unité du peuple français, elle est là, de toute façon. On nous parle, le gouvernement nous dit unité, 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 la réponse au terrorisme. Non, l'unité du peuple français, Dieu merci, elle est là. Mais ça n'est pas simplement la réponse. La réponse, elle doit être maintenant concrète. Je pense qu'il faut sortir du temps des grands mots, des grands discours, des bougies, des slogans et des fleurs. Je pense qu'il faut, et il est plus que temps, qu'on passe à l'action.
Alors,
de ce point de vue-là, je n'entends pas grand-chose.
Entrons dans le détail. Manuel Valls a prévenu, il n'y aura pas de nouvelle loi.
Oui, non, mais c'était même pire que ça. On nous a expliqué que, et François Hollande juste avant lui, dans son allocution officielle, qu'en réalité, on avait tout tenté déjà contre le terrorisme. Ça nous a rappelé d'ailleurs la phrase du président Mitterrand sur le chômage. Contre le chômage, on a déjà
mais
tout essayé.
Le dispositif bon, actuel, le dispositif législatif, est-ce qu'il est adapté, oui ou non ? Est-ce qu'on a les armes aujourd'hui, les outils juridiques ?
On a beaucoup d'armes, mais beaucoup ne sont pas utilisées. D'abord, premièrement, quand on voit que dans l'affaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, Adèle Kermiche a été remis dehors sous bracelet électronique, en tout cas une partie de la journée, alors qu'il avait déjà violé son contrôle judiciaire, alors qu'il présentait des signes de radicalisation évidents, et qu'on ait pu, qu'un juge ou qu'un collège de juges ait pu le mettre dehors sous bracelet électronique, est tout à fait hallucinant, tout à fait effrayant.
La
et
loi
ça, c'est
le
pas
permet.
Une question de loi. Bien sûr, ça, c'est pas une question de loi. Il aurait dû rester en détention. Quand on apprend qu'à la Martinique, un présumé djihadiste marocain de nationalité étrangère était assigné à résidence à la Martinique et s'est enfui, est aujourd'hui recherché par les gendarmes. C'est tout à fait effrayant également. Je rappelle que dès janvier 2015, le Front National, j'ai retrouvé le communiqué, demandait à ce que ce Marocain soit expulsé de France. On n'a pas à l'assigner à résidence en France. Il est étranger, on l'expulse. On n'a rien à faire à garder ce Marocain en France.
La loi, c'est la décision des juges. La loi, c'est la séparation des pouvoirs. Les juges ont décidé. Est-ce qu'il faut, à ce moment-là, décider de les sanctionner ?
Non, mais il faut certainement revoir leur formation, certainement revoir leur sélection, certainement impulser une autre dynamique dans la justice qui soit aux antipodes de la dynamique de laxisme qu'on connaît depuis des décennies. Vous savez, c'est une question de loi ou pas de loi, mais je veux dire, ça fait 30 ans qu'on est sur une pente glissante. Et cette pente glissante, c'est celle du laisser-faire, de la capitulation du quotidien. On a laissé peu à peu le fondamentalisme grignoter la République, grignoter la laïcité. Puis on n'a pas réagi, on a réagi mollement, on a refusé de mettre des mots à droite et à gauche. Un certain Nicolas Sarkozy a supprimé la double peine il y a quelques années. Lui-même défendait cette idée de bracelet électronique pour les radicaliser, pour les fichiers S, dont on voit bien évidemment la dangerosité et l'inefficacité. Donc on voit que c'est tout un état d'esprit de gouvernements depuis 30 ans qui ont renoncé à la France,
mais vous le savez bien, que certaines des solutions se heurtent à l'obstacle, notamment constitutionnel, les droits fondamentaux. C'est le cas, par exemple, de l'emprisonnement préventif que certains préconisent.
Non, je pense qu'aujourd'hui, si on parle d'état de droit, l'état de droit n'existe plus que partiellement en France. Lorsque les lois ne sont plus appliquées, lorsque le droit n'est pas appliqué et dit par la justice de manière égale pour tous, alors l'état de droit n'existe déjà plus.
Vous faites allusion à quoi précisément ?
Je fais allusion à toutes ces décisions. Moi, je suis désolé, mais je reviens sur cette histoire de bracelet électronique. Je trouve ça éminemment, mais plus que choquant. Je veux dire, il y a eu, au bout du bout, il y a eu un mort. Il y a eu un attentat terroriste.
Mais encore une fois, Florent Philippot, on peut regretter la décision des juges, mais c'est la loi qui s'est appliquée. C'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, mais c'est une question. C'est ce que je vous disais. C'est pas simplement une question de loi. C'est aussi une question de politique publique, d'impulsion qui est donnée. Est-ce qu'on est dans la culture de la victimisation des coupables ? Et franchement, on sort de plusieurs années de laxisme, loi Dati sous Sarkozy, loi Taubira sous Hollande, où on nous a expliqué que la prison était une mauvaise solution, la détention n'était pas une solution et qu'il fallait tenter le contrôle judiciaire, le bracelet électronique et qu'on devait faire confiance à la réinsertion, etc. Oui, parfois la réinsertion, elle est possible. Parfois, manifestement, elle n'est pas possible. Et c'est peut-être un changement d'état d'esprit qu'il faut d'abord opérer et un changement d'homme à la tête de l'État. Parce que manifestement, ceux qui nous gouvernent depuis des années ne sont pas prêts à mener cette guerre dont ils nous parlent. Ils l'amènent verbalement, mais ils ne l'amènent pas concrètement. Alors oui, en termes de politique publique, tout n'est pas fait, loin de là. Comment se fait-il qu'en France, on continue à ne pas avoir de frontières, à ne pas avoir de frontières nationales ? Et ça, c'est une vraie question.
En l'occurrence, les frontières n'auraient rien changé au drame que nous avons connu ces dernières semaines.
Et dans beaucoup d'autres actes terroristes, elles auraient changé les choses puisque nous aurions mieux connu le déplacement et nous aurions pu empêcher des déplacements de terroristes. Aujourd'hui, nous sommes dans cette grande passoire de Schengen. Comment se fait-il qu'on continue avec la politique d'immigration massive ? Alors que Daesh avait prévenu que parmi les migrants, ils allaient y infiltrer des terroristes et des kamikazes qui se sont fait exploser d'ailleurs en novembre dernier à Paris et à Saint-Denis. Pourquoi on continue aujourd'hui ? Rien n'a changé de ce point de vue-là. On continue, même chiffre d'immigration massive sous Sarkozy que sous Hollande. Pourquoi on ne rétablit pas immédiatement la double peine ? Pourquoi on ne va pas fermer cette centaine de mosquées radicales qui existent en France, qui sont identifiées ? Alors, il y a des tonnes de décisions très concrètes et pratiques à prendre là, dans les jours qui viennent, pour pacifier la société française. Et vous voyez, tout cela respecte l'état de droit. Il n'y a pas de problème avec l'état de droit. Au contraire, ça rétablit l'état de droit.
Alors, après le 14 juillet, la police des polices, hier, a estimé que le dispositif de sécurité n'était pas sous-dimensionné à Nice le soir de l'attentat. Est-ce que ça signifie pour vous que le débat est clos ?
Non, le débat n'est pas clos. Nous avons l'obligation, il y a eu 84 morts et des centaines de blessés, de savoir exactement ce qui s'est passé et évidemment de ne pas répéter les erreurs pour l'avenir. Il faut être sérieux dans cette affaire-là. Vous parliez tout à l'heure de séparation des pouvoirs. On ne peut donc pas demander à une autorité subordonnée au ministre de l'Intérieur de faire une enquête sur l'action du ministre de l'Intérieur. Enfin, elle peut la faire, mais on peut aussi légitimement être en doute sur les conclusions qu'on pouvait un peu imaginer à l'avance. Il faudra attendre le travail de la justice pour savoir précisément ce qui s'est passé. De toute façon, moi, je trouve que le comportement de M. Cazeneuve, depuis des mois, est indigne. Un ministre de l'Intérieur, c'est un serviteur. Le mot ministre, ça veut dire serviteur dans son étymologie. Ça signifie qu'il n'est pas là pour se maintenir coûte que coûte, s'agripper à son poste place Beauvau. Il est là pour servir les Français. Et s'il n'en est pas capable, or son bilan, honnêtement, est absolument catastrophique, alors il doit, par un principe de responsabilité, présenter sa démission. C'est ce qu'ils avaient fait à Bruxelles après les attentats. En ce qui concerne les ministres belges de l'Intérieur et de la Justice, c'est ce que M. Cazeneuve ne veut pas faire.
Les ministres belges qui avaient présenté leur démission. Qui avaient été refusés.
Oui, mais M. Cazeneuve, d'ailleurs, je pense qu'elle devrait être acceptée, et lui refuse même de présenter sa démission.
Débat médiatique, mais qui concerne tous les Français. Plusieurs médias font le choix de ne plus publier les photos des auteurs des tueries. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est cachez-moi cet islamiste que je ne saurais voir. Je ne peux y voir, bien sûr, qu'une volonté d'essayer de masquer les dégâts de l'immigration massive. Hein, plus de noms, plus de photos, et bientôt on nous expliquera qu'il ne faut plus trop en parler non plus, en réalité.
C'est un débat légitime, par ailleurs ?
Non, je trouve que c'est un débat grave, qui en dit long, sur l'état de censure ou d'autocensure de certains de nos médias. Écoutez, les gens iront vers Internet ou les médias étrangers. Voilà, et certains médias perdront encore plus de crédibilité. Je trouve cela inquiétant. Qu'est-ce qu'on a à cacher ? Vous pensez qu'on n'a pas à connaître le nom et le visage de notre ennemi ? Bien sûr que si, on doit connaître le nom et le visage de notre ennemi. Sinon, on ne pourra jamais le battre, jamais le combattre. Ou alors, on a peur que les Français connaissent la vérité. Et que les Français découvrent que 40 ans de glissade, de laxisme et d'immigration massive accompagnée de communautarisme, eh bien oui, c'est un vivier de la radicalisation et un vivier parfois du passage à l'acte. D'autant plus que c'est assez ridicule parce que l'argument de la starification qu'on voudrait éviter des djihadistes, les spécialistes vous expliquent que cette starification, ils cherchent d'abord à tuer avant d'être des stars. Hein. Premièrement, ils cherchent à nous tuer. Il faudrait peut-être remettre les pendules à l'heure. Et deuxièmement, ils recherchent cette starification parmi leurs propres médias. L'État islamique a ses propres médias de toute façon. Et de toute façon, il y a Internet et les réseaux sociaux. Donc les noms et les photos, elles circuleront.
Un mot des États-Unis. La France n'est plus la France, c'est ce qu'a dit hier Donald Trump. Le candidat républicain souhaite des contrôles drastiques pour tous les Français qui souhaiteraient se rendre aux États-Unis. Ça vous semble normal ?
C'est le point de vue d'un dirigeant américain qui essaie de sécuriser son peuple. Comment lui en vouloir ? Il voit, il regarde, outre-Atlantique, la France. Depuis des milliers de kilomètres, il voit un pays qui a connu près de 250 morts par terrorisme islamiste en 18 mois, où un prêtre est égorgé dans son église. On n'est pas au Moyen-Orient, hein. On est en France. Bon. Et lui, il se dit, bah, écoutez, moi, j'essaie de sécuriser après, avec ses méthodes, ses mots, et ça, c'est sa responsabilité. Et on est dans le contexte américain, qui n'est pas le contexte français. Mais je pense qu'il essaie de faire en sorte de sécuriser son peuple. La France est encore la France ? La France est éternelle, ça, c'est ma conviction profonde, et je suis sûr qu'elle peut se remettre debout, se remettre sur pied. Moi, j'ai profondément confiance, j'aime profondément mon pays, et je pense que notre peuple est un très grand peuple, très vieux et très grand peuple. Mais oui, quand on voit des prêtres égorgés, on se dit que la France n'est plus tout à fait la France. C'est le moins qu'on puisse dire.
Merci Florian Philippot d'avoir été l'invité de RTL ce matin.
Merci à vous.